Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 15 mars, ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité, vous que je devine de l'autre côté du micro. Comme d'habitude, nous allons vous proposer un tour du monde de l'actualité de ces 7 derniers jours, Afrique, Asie, Europe, tels seront les continents où nous allons nous rendre. Et nous allons aussi parler de la Syrie, un conflit passé au second plan ces dernières semaines, car nous sommes en compagnie d'une journaliste d'origine syrienne, Ala Konmani. Bonjour Ala Konmani.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous venez d'écrire La Syrie promise, un livre publié chez Sinbad, Actes Sud. Livre, Ala, dans lequel vous écrivez « Révolution, révélation du printemps 2011 semble aujourd'hui un mirage ».
C'est un mirage tel qu'on l'a ressenti et tel qu'on l'a, on l'a accueilli le 15 mars 2011 dans la foulée des autres.
Il y a juste 3 ans donc, hein, voilà. Jour pour jour.
Dans la foulée des révolutions arabes, et c'était, on sentait que c'était incontournable que cette vague de révolte atteigne la Syrie qui est le plus touchée par la dictature et depuis le plus longtemps. Et bah un peu ce rêve qui a tourné petit à petit au cauchemar, dans la mesure où, comme on le sait, la crise, la révolution est devenue crise avec des dimensions à la fois internes, régionales, internationales et évidemment des dimensions de drame humain colossal.
On va évidemment en reparler pendant cette heure à la Konmani, mais d'abord partons pour la Crimée, autre grand titre de l'actualité internationale, où la population va donc voter demain pour ou contre son rattachement à la Russie. Le résultat ne fait guère de doute, car les russophones sont majoritaires dans ce territoire revendiqué par Moscou. Le oui va l'emporter, aggravant ainsi la crise dans la région, et certains habitants ukrainiens de la Crimée veulent partir. Reportage de Daniel Valo et Richard Rifono à Simferopol, la capitale de la Crimée.
C'est Vadim. À quel étage ?
C'est au premier étage d'un immeuble au mur défraîchi qu'il nous reçoit. Andrei n'a pas encore fait ses cartons, mais en cas de rattachement à la Russie, c'est sûr, il quittera son pays natal.
Nous continuons d'espérer que la Crimée restera en Ukraine et que nous pourrons y vivre en paix. Mais si la Crimée devient russe, nous serons persécutés en tant qu'Ukrainiens et nous serons obligés de partir.
Dans la cuisine, la télé est restée branchée par habitude sur l'une des chaînes de télévision ukrainiennes coupée la semaine dernière par les nouvelles autorités. Désormais, c'est une chaîne en russe qui est diffusée à la place.
Nous aimons l'Ukraine profondément. Nous sommes nés en Ukraine et nous voulons vivre dans une Ukraine libre et nouvelle. Nous savons ce qu'est la vie en Russie et nous n'en voulons pas. Si je m'en vais, ce sera la chose la plus difficile de ma vie, car j'ai passé toute mon existence ici. La Crimée fait partie.
Andrei attendra les résultats du référendum pour se décider, mais selon lui, plusieurs familles de souche ukrainienne dans son quartier ont déjà choisi de partir, traumatisées par l'intervention directe de l'armée russe dans la péninsule.
Notez que le Parlement de la Crimée a d'ores et déjà prononcé une déclaration d'indépendance avant même le vote de demain. La situation est évidemment à suivre dans nos différents points d'information. Alors, Konmani, RFI vous offre toute la diversité de l'actualité mondiale. De la Crimée, passons donc en Guinée. Écoutez par exemple la colère de ces habitants de Conakry qui manifestaient lundi, ils étaient privés d'eau.
J'ai vu les femmes avec des bidons qui ont barré la route. Je me suis renseigné un peu, ils m'ont dit effectivement que c'est à cause de l'eau. Il y a un manque d'eau, c'est pourquoi justement les femmes se sont levées ce matin pour barrer la route.
Pas de l'eau à Conakry à l'heure là, surtout vers de Kouza jusqu'à Hafia, il n'y a pas d'eau. Donc les femmes ont décidé maintenant de faire la manifestation pour trouver de l'aide. C'est pas dire qu'il y a affaire d'ethnie, c'est pas ça, non. C'est affaire de l'eau. On préfère vivre sans courant, mais on ne peut pas vivre 5% d'eau. C'est à cause de ça qu'on prie le président Alpha Condé de venir en aide, quoi. C'est ça qu'on prie. C'est pas à cause de quelque chose ni rien, mais il n'a qu'à nous trouver l'eau.
Propos recueillis par notre correspondant à Conakry, Mokhtar Ba. Une semaine d'actualité. Merci de votre fidélité. Un magazine que vous pouvez aussi podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr.
Sept jours dans le monde.
Avant donc de commencer à parler de la Syrie avec vous à la Conmani, allons dans un des pays frontaliers de la Syrie, la Turquie. Un manifestant turc est mort mercredi après avoir été atteint à la tête lors de heurts à l'occasion de la deuxième journée consécutive de rassemblement provoquée par la mort d'un adolescent blessé en juin au plus fort de la contestation anti-gouvernementale. Les violences reviennent donc dans la rue. Correspondance de Jérôme Bastion.
Des violences hautement prévisibles après la mobilisation monstre des funérailles du petit Berkin. Outre Ankara, Izmir ou Tunceli, les rues d'Istanbul ont connu une des nuits les plus violentes depuis les grandes manifestations de juin dernier. Barricades en feu, gaz lacrymogène, canons à eau, assauts et poursuites interminables jusque très tard dans la nuit. Ces heurts ont fait plusieurs blessés, soit indisposés par les gaz, soit blessés à la tête par leurs capsules. Et puis en marge de ces heurts, ces incidents tout aussi inquiétants dans les rues du centre-ville et du quartier de la victime, Okmeydanı. Des bandes de provocateurs en civil menant des opérations de répression qui ont fait au moins une victime, un homme de 30 ans tué par balle. Devant cette situation de plus en plus incontrôlable, la presse turque, unanime ce matin à saluer le petit prince Berkin enterré hier, se montre de plus en plus critique. Elle dénonce l'attitude du gouvernement entre déni et stigmatisation, entre autisme et polarisation, et le premier ministre qui garde le silence sur la contestation et les violences de ces derniers jours. Comme les manifestants, les éditorialistes expriment de plus en plus crûment leur ras-le-bol et leur inquiétude, et comme les protestataires dans la rue, ils réclament, plus que la démission du gouvernement et de son chef, eh bien que le Premier ministre rende des comptes et soit jugé pour ses crimes.
L'actualité internationale cette semaine, c'est aussi bien sûr la disparition de ce fameux avion, de ce fameux Boeing 777 de la Malaysian Airlines qui assurait la liaison Kuala Lumpur-Pékin avec à son bord 239 personnes. On vous en parle bien évidemment dans nos journaux avec les nouveaux développements. Une semaine d'actualité donc en compagnie d'Ala Konmani, auteur de La Syrie promise. J'aime bien ce titre qui donne de l'espoir, qui est positif. Hein. Je suppose qu'il n'est pas choisi par hasard.
C'est moi qui l'ai choisi et c'est venu tout de suite d'ailleurs, ouais. Sans hésitation.
Un titre qui ouvre des perspectives, ouais. Donc publié aux éditions Sinbad, Actes Sud. Avant de parler de la Syrie, un mot quand même sur Conakry, c'est pas une ville qui vous est totalement étrangère. On entendait tout à l'heure ces femmes et ces hommes mécontents.
J'ai eu un passage rapide à Conakry, comme je le raconte dans le livre. J'étais toute petite, hein, j'avais 4 ou 5 ans, mais là où c'était important pour moi, c'est que c'est les premiers mots de français que j'ai appris et que j'ai prononcé, qui est devenu petit à petit ma première langue, et bon, ça reste quand même très important, l'étape qu'on a créée, c'est là où j'ai appris le français.
Alors cet épisode de votre vie me donne l'occasion de dire que votre livre est un dialogue imaginaire avec votre père via des courriels. Je trouve que l'idée est très belle. Votre père aujourd'hui disparu, qui était diplomate, ce qui explique pourquoi vous étiez à Conakry d'ailleurs.
Oui, c'était les premiers postes de jeunes diplomates de mon père qui nous ont effectivement qui ont amené toute la famille dans une grande partie de l'Afrique. Hein. Il y a eu Conakry, il y a eu Cape Town, l'Afrique du Sud. Avant ça, le Maghreb, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, et puis par la suite la France, la Grande-Bretagne. C'est vrai que ça a été une chance, même si j'ai vécu souvent ça enfant sous forme de déracinement, mais maintenant, je me rends compte combien ça. J'ai quand même pu capter des choses à chaque étape.
Un père qui, comme vous d'ailleurs, puisque vous êtes installé en France, aimait beaucoup Paris.
Oui, c'est pour ça qu'on est là, finalement. C'était, quelqu'un qui, élevé sous le mandat français et dans les écoles françaises, dans les écoles des frères, des religieux français à Damas, a gardé, tout en combattant le mandat français, hein, surtout on était encore la Syrie sous mandat, était fasciné par la France, par Paris, et c'était les rêves de sa vie, il a réalisé de pouvoir finalement s'installer à Paris, même si c'était un choix un peu forcé.
Dans ce livre, cet échange de courriel, vous apprenez donc à votre père ce qui se passe dans le monde arabe, les révolutions, les printemps arabes, comme on dit, puis l'arrivée de la révolution, des premiers moments de contestation, le 15 mars 2011, en Syrie.
Oui, c'est sûr que c'est un moment où très sincèrement, je suis pas la seule, hein. On a les gens qui sont disparus nous ont beaucoup manqué, surtout quand c'est un événement qu'ils ont attendu, pour lequel ils se sont battus, qu'ils ont rêvé. Le fait que tout d'un coup la population enfin se révolte contre la tyrannie, contre la dictature, qu'elle réclame la liberté, la démocratie. Bon, mon père était quelqu'un de très démocrate et qui a rêvé vraiment longtemps et désespéré d'ailleurs de ce que la Syrie, comme le reste des pays arabes, que la population se lève pour réclamer la liberté. Il l'a pas vu, alors forcément, il fallait que je lui en fasse part.
Ah, vous lui écrivez, le 25 mars 2011, le bastion de la peur s'effrite étonnamment en Syrie. Étonnamment.
Oui, parce que c'est quand même une population qui a été terrorisée pendant des décennies par une dictature dont le mot dictature ne dit pas tout, hein. Quand on sait ce que c'était au quotidien, que la pression, la surveillance, l'oppression, la répression du moindre souffle, toute la population a été maintenue en silence par la peur de ce qui pouvait l'attendre, parce qu'on savait l'emprisonnement, on savait toutes les exactions que le régime pouvait pratiquer contre les opposants. C'est vrai que quand j'étais à Damas au tout début, en reportage au tout début de la révolution, et les gens ils me disent, mais on n'en revient pas que ces jeunes puissent ne plus avoir peur comme ça, puissent déchirer une photo de Bachar el-Assad devant les forces de sécurité, et quelles que soient les conséquences, sachant qu'ils risquaient leur vie, et ils l'ont risqué souvent.
Une semaine d'actualité.
À la Conmani, avant de reparler de la Syrie, parlons d'un certain François, pape depuis un an. Maintenant, c'est un autre anniversaire d'un autre genre, évidemment. Rome jeudi, Antoine-Marie Izoard.
En apparaissant à la loggia de la basilique Saint-Pierre, le cardinal Bergoglio avait déjoué les pronostics et surpris par sa simplicité. En un an, tous les collaborateurs du pape ont appris qu'ils pouvaient s'attendre à un coup de fil de lui à tout instant. Ils se sont habitués aussi à le voir sortir à pied de la maison Sainte-Marthe, résidence qu'il a préférée aux traditionnels appartements pontificaux, trop isolés à son goût. Gendarmes et gardes suisses ne se formalisent plus non plus lorsque le pape descend à l'improviste de sa papa mobile, place Saint-Pierre, pour saluer longuement les fidèles qui participent nombreux aux audiences générales. Ceux qui travaillent avec le pape François savent aussi que l'homme qui sourit aux foules à l'extérieur est à l'intérieur un véritable homme de gouvernement qui souhaite réformer en profondeur la curie romaine et s'est entouré pour cela de cardinaux du monde entier, multipliant les groupes de travail et les commissions d'enquête. Quant aux habitants de Rome, ils ont une affection toute particulière pour ce pape argentin dont la famille est originaire du nord de l'Italie et qui, il y a un an, commençait par s'incliner pour recevoir la bénédiction de son peuple.
Suite d'une semaine d'actualité, donc retour en Syrie, pour un constat simple d'aujourd'hui, ce que l'on appelle la communauté internationale, je mets toujours beaucoup de guillemets avant et après cette expression, à la Conmani, a quelque peu délaissé le pays, la Syrie, États-Unis en tête, Toufik Ben Aïchouch.
Il est loin le temps où Barack Obama menaçait d'intervenir directement et militairement dans le conflit syrien si le régime de Damas usait d'armes chimiques contre la rébellion armée. Le président des États-Unis en avait fait même une ligne rouge que Damas ne devait franchir sous aucun prétexte au risque de subir le feu de l'armée américaine. L'usage de telles armes, aussi bien d'ailleurs par l'armée syrienne que par les insurgés, a depuis été avéré et Washington s'est contenté de déplorer. La ligne rouge, en fait, est devenue une ligne jaune, puis s'est totalement évaporée. En outre, les insurgés sur lesquels l'Occident comptait sur le terrain se sont fait damer le pion littéralement par les groupes liés à Al-Qaïda. En somme donc, militairement, aucun moyen d'action n'est possible. C'est Vladimir Poutine qui sortira Barack Obama des difficultés en rendant possible à l'époque un accord sur la destruction de l'arsenal chimique de Damas. La Russie a exercé des pressions sur son allié syrien, mais dès lors que Washington et Moscou sont en désaccord aujourd'hui sur la question de l'Ukraine, on voit mal pourquoi la Russie s'efforcerait de tordre le bras au président syrien pour mettre fin à ce conflit.
À la Khonmani, constat lancinant, répété quasiment tous les jours depuis le début de l'insurrection, donc en 2011, plus de 140 000 morts.
On compte plus.
On ne compte plus, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 6 millions de déplacés, plus de 2 millions de réfugiés, quelques 17 000 disparus, et une communauté internationale très... prudente, je veux dire ça
comme
ça.
Vous avez tout à fait raison de dire et là, qu'à l'occasion de la crise syrienne, il n'y a plus de communauté. Il y a de l'international, mais sûrement pas de la communauté. Et là, on est dans un déséquilibre flagrant, étonnant, on n'en revient pas. Aussi bien les Syriens que d'autres, je veux dire, vous avez parlé de l'Ukraine. Le déséquilibre... face à la Russie, je ne sais pas de qui, du reste, de ceux qui ne sont pas d'accord avec les coups de force de la Russie, que ce soit en Ukraine, et je crois que la crise syrienne a rendu possible, grandement a enhardi Vladimir Poutine en Ukraine.
Qui, il faut le rappeler, c'est évident, mais je le rappelle quand même, soutient,
soutient Bachar el-Assad.
Absolument,
Bachar el-Assad. L'a soutenu dès le début, l'a soutenu pour justement reprendre sa place de grande puissance ou de pouvoir dans le monde à travers plusieurs vétos au Conseil de sécurité pour bloquer toute initiative internationale et pas de la communauté, j'allais dire. Mais ce qui est absolument étonnant et que les Syriens, quand je vais là-bas, me posent la question à chaque fois, comment le reste du monde laisse passer ? Je crois qu'on n'a jamais vu autant un affichage d'incompétence de la part des grandes puissances, à commencer par les États-Unis, l'Europe aussi. À force de ne pas savoir quoi faire, ils ne font rien et ils enveniment la situation.
Est-ce qu'à contrario, la crise en Crimée et tout ce qui va se passer dans les semaines qui viennent va faire que les Occidentaux vont changer d'attitude par rapport à Vladimir Poutine, être un peu plus ferme?
On peut quand même l'espérer, parce qu'après...
Déterminé.
Il n'y a pas de raison que ça arrête Poutine. Il va y avoir un moment... C'est quand même énorme, cette histoire de Crimée. Je veux dire, on est en train de diviser un pays, de rattacher... Ça me rappelle un petit peu, moi qui connais mieux les histoires du Moyen-Orient que celles de l'Europe, l'attitude israélienne, souvent, ils annexent, on fait des colonies, on crée des faits accomplis, dès lors qu'il n'y a personne en face, qu'il n'y aura pas de punition, il n'y aura pas de sanctions, pourquoi ne pas continuer? C'est ce que Poutine fait.
Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, à la Khonmani, aujourd'hui, là, en Syrie, un risque de libanisation, pour reprendre une comparaison avec la région que vous connaissez bien?
Oh, je crois qu'on a dépassé nettement.
C'est-à-dire un territoire totalement divisé, compartimenté
Sur le plan de diviser le territoire, c'est toujours la question, c'est la première question qui a été posée depuis le début de la crise syrienne et qui continue à être posée. À propos de libanisation, faut penser que la libanisation, elle a eu lieu pendant la guerre et qu'après
75, 90,
et que la guerre civile libanaise s'est terminée justement par la réunification du territoire. Mais si on veut parler de libanisation dans ce sens d'une guerre partout généralisée, longue, globalisée sur le territoire, je crois que la Syrie a nettement dépassé le stade de la libanisation. Il y a eu en 15 ans de guerre au Liban, 15 ou 20 ans de guerre, 150 000 morts, je crois. En Syrie, on est à plus de 150 000 en 3 ans. Et c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus intense, beaucoup plus grave.
Voilà, Khonmani, nous allons marquer une pause pour écouter quelques nouvelles du monde. On parlera sans doute de la Crimée et de la Syrie. À tout de suite.